Et voici le journal de Clara Lecoq-Réal. Bonjour Clara.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Fini les bars pour près de 8 millions de Français. Ils ferment pendant 15 jours à Paris et dans sa petite couronne. Ces départements passent en alerte maximale face au Covid-19. Pendant ce temps, le protocole est assoupli à Marseille. Nous ferons le point dès le début de ce journal.
Et vous entendrez ensuite un témoignage rare, celui d'une retraitée sourde qui ne peut plus interagir avec les autres à cause des masques qui cachent le bas du visage. Elle vit, dit-elle, dans un monde de fantômes.
Le bilan va s'alourdir au fil des heures, mais on sait que deux personnes au moins sont mortes à cause des intempéries ces derniers jours dans les Alpes-Maritimes. Une vingtaine d'autres sont toujours recherchées au milieu de maisons effondrées. État des lieux à suivre.
Et puis nous irons en Nouvelle-Calédonie où les indépendantistes ont gagné du terrain lors du référendum hier.
Nous irons aussi à Londres où s'ouvre aujourd'hui un procès. Quatre hommes sont soupçonnés d'être impliqués dans la mort de 39 migrants vietnamiens. Ils avaient été retrouvés il y a un an dans un camion frigorifique près de la capitale britannique. C'était attendu, le week-end n'y a rien changé et la nouvelle est confirmée depuis hier soir. Paris et sa petite couronne passent en rouge écarlate. La capitale et ses trois départements limitrophes basculent en zone d'alerte maximale, synonyme de restrictions sanitaires. Les bars devront fermer dès demain et pour au moins deux semaines. Les restaurants, eux, ne sont pour le moment pas concernés. Antoine Maret, bonjour.
Bonjour.
Ce sont les élus qui vont détailler ces mesures dans les heures qui viennent.
Oui, c'est un nouveau tour de vis dans la capitale. Il était attendu face à la forte progression de l'épidémie de la Covid-19, d'où cette annonce faite hier, fermeture des bars. Et c'est tout à l'heure que la maire de Paris, Anne Hidalgo, et le préfet de police Didier Lallement vont détailler ces mesures prises par arrêté qui vont s'appliquer pendant au moins deux semaines à Paris. On devrait en savoir plus également sur les mesures concernant les EHPAD et l'enseignement supérieur. Matignon a annoncé hier soir que les salles ou les amphithéâtres des universités ne pourraient, à partir de aujourd'hui, être remplis qu'à 50% de leur capacité au maximum en zone d'alerte renforcée et maximale. À noter que les restaurants vont pouvoir rester ouverts à Paris.
Et pour harmoniser les décisions, Antoine, les restaurants justement à Marseille et à Aix pourront rouvrir leurs portes.
Et c'est un soulagement pour les restaurateurs de ces deux villes qui avaient dû baisser le rideau il y a une semaine, provoquant un début de fronde. Le gouvernement a finalement suivi l'avis du Haut Conseil de Santé Publique en accord avec les professionnels du secteur, ce qui devrait rendre la pilule plus facile à avaler. Même s'il va y avoir de nouvelles contraintes pour les restaurateurs, elles seront dévoilées tout à l'heure. Selon plusieurs sources, ils devront recenser leurs clients pour les contacter après coup en cas de besoin, garder 1,5 mètre entre chaque table et rendre obligatoire le paiement à table, mais aussi fermer leurs établissements à partir de 22h.
Merci beaucoup Antoine Maret. On l'a compris, ce sont donc les bars qui sont principalement visés. Les gérants espéraient appliquer un protocole sanitaire plus strict, au même titre que les restaurants. Il n'en sera rien, la fermeture est décidée. Marcel Bénézet préside la branche des cafés, des bars et des brasseries au Groupement international des indépendants. Il est évidemment déçu, inquiet, dit-il, pour les établissements et pour les conséquences sociales et psychologiques.
C'est une grande tristesse parce que nous avions proposé que les bars restent ouverts dans le monde de la restauration, c'est-à-dire qu'ils ne pourraient pas servir au comptoir, mais ils pourraient servir en mode assis, ça veut dire que personne debout, mais à table, ils auraient pu continuer de servir. Et je pense que c'était une bonne chose pour préserver notre jeunesse, de ne pas se retrouver dans des appartements exigus avec des bouteilles alcoolisées, peut-être d'autres choses. Donc je pense que c'est dommage de fermer les bars, parce que ça va être une catastrophe économique. Aujourd'hui, nous allons rentrer dans une période difficile et j'ai peur que économiquement et psychologiquement, les dégâts soient beaucoup plus importants que le coronavirus. Il malheureusement fait beaucoup de victimes, mais je pense que les dégâts psychologiques vont être très importants.
Des propos recueillis par Victor Maté. Au chapitre des conséquences psychologiques, encore, nous avons choisi de suivre une personne sourde dans le monde masqué qui nous entoure depuis 6 mois. En France, 300 000 personnes sont sourdes, sans compter les malentendants. Toutes ou presque lisent sur les lèvres pour comprendre leurs interlocuteurs. La moindre interaction avec un masque qui cache la bouche est donc devenue un calvaire pour ces personnes. Arnaud Rozac a rencontré Agnès Fédrizi, elle a 62 ans. Sourde de naissance, elle habite seule à Chelles, dans la banlieue est de Paris. Son quotidien a basculé cet été, elle nous raconte.
Je suis dans un monde de fantômes et je ne peux plus m'accrocher à rien, quoi. C'est comme s'il n'y a plus de couleurs, vous voyez. Il n'y a plus de vie, c'est mortel.
Agnès a passé sa vie à surmonter son handicap, un combat de tous les jours pour se faire intégrer. Mais depuis que la France entière vit masquée, cette ancienne kiné à la retraite préfère rester seule.
C'est par mes yeux que je capte tous les sons, je transforme en son. C'est pour ça que le masque, là, c'est la catastrophe absolue. Parce que pendant 60 ans, J'ai beaucoup triché avec les visuels. Moi, je suis une femme libre et j'aimais beaucoup faire les choses à l'improviste comme ça. Moi, je suis pas du genre à me laisser déprimer, mais j'ai plus envie de sortir.
Ne plus sortir pour ne plus se retrouver bloquée, incomprise, comme cette fois où un pharmacien refuse de descendre son masque et préfère lui hurler dessus en espérant être entendu. Agnès refuse de s'apitoyer sur son sort, elle continue de voir des amis chez elle, de dessiner, c'est sa plus grande passion, mais elle s'inquiète pour les autres personnes sourdes.
J'ai la chance de ne plus travailler. Et je pense aux jeunes sourds qui sont intégrés dans les lycées et tout. Je ne sais pas ce qu'ils font, c'est la catastrophe aussi. Je me mets à la place aux sourds salariés dans des entreprises où ils sont seuls et tout ça. Il y aura ce syndrome de glissement, comme chez les personnes âgées. Et il y aura la même chose chez les sourds.
Agnès souhaite que les masques transparents se démocratisent dans les lieux publics, que l'État autorise les Français à baisser leurs masques en présence de personnes sourdes. Mais elle espère surtout vite en finir avec cette pandémie.
C'est quand même pénible, il ne faut pas que ça dure trop longtemps. Parce que moi, je vais prendre un voilier et je vais faire le tour du monde avec les chats.
Voilà des propos à un portrait signé Arnaud Rozac que vous pouvez retrouver en longueur sur franceculture.fr avec ce titre « Je suis dans un monde de fantômes, l'isolement des personnes sourdes face à une société masquée ». Dans le journal de 18h ce soir sur France Culture par ailleurs, nous nous intéresserons aux conséquences du masque pour les jeunes enfants à la crèche. Deux morts et une vingtaine de blessés. Voici le bilan partiel ce matin des intempéries du week-end dans les Alpes-Maritimes. L'arrière-pays niçois a été violemment touché par la tempête Alex, coupant du monde certaines communes. Bonjour Véronique Roberotte.
Bonjour.
À Saint-Martin-Vésubie par exemple, les évacuations s'enchaînent depuis deux jours.
Oui, l'urgence c'est vraiment d'évacuer les habitants de ce village, Saint-Martin-Vésubie, sans eau, sans électricité, depuis presque 62 heures maintenant, complètement isolés avec le froid qui s'installe. Il faut mettre donc les habitants en sécurité. On sait que 38 maisons ont été emportées par la rivière. Il y a 38 autres maisons également, celles construites en bord de falaise qui menacent de s'écrouler à leur tour. 250 personnes du village ont été pour l'instant évacuées par hélicoptère. En priorité, les plus vulnérables, explique Yvan Motet, le maire de Saint-Martin-Vésubie.
Qui on évacue en premier, c'est les personnes fragiles, les personnes âgées, mais également les personnes qui ont des problèmes de santé, parce qu'il n'y a plus beaucoup de médicaments ici, donc il vaut mieux les évacuer. On est en train de réfléchir également à évacuer l'hôpital, parce que si jamais le groupe électrogène tombe en panne, ceux qui sont sous oxygène, qu'est-ce qu'on fait, quoi ? Le problème, c'est qu'on est embêté parce qu'il y a les histoires des hélicoptères. Ils sont également pris dans la vallée de la Roya, ils sont pris dans la Tinée. Donc on est obligé de faire avec le peu de moyens qu'on nous donne.
Les hélicoptères vont continuer comme ce matin à assurer un pont aérien. La réouverture d'une route sommairement réparée hier va permettre aussi à des véhicules légers de pouvoir circuler. Ce matin, environ 150 personnes sont encore évacuées de Saint-Martin-Vésubie.
Et Véronique, j'évoquais deux morts, une vingtaine de disparus. Le bilan est en fait encore difficile à évaluer.
Oui, très loin d'être stabilisé, le commandant des pompiers des Alpes-Maritimes parle de 20 personnes portées disparues. Vous l'avez dit, 8 personnes avérées que des témoins donc ont vu disparaître dans les flots et une douzaine de disparus supposés, cela signifie qu'en l'absence de liaison téléphonique, de réseaux de communication qui sont extrêmement difficiles, eh bien on n'a pas d'informations sur elles, elles sont peut-être seulement injoignables. En France, donc on sait avec certitude ce matin que ces inondations ont fait deux morts, deux personnes dont les corps ont été retrouvés, l'un au niveau de la mer, l'autre dans une voiture. Par ailleurs, 4 corps ont été retrouvés côté italien, dont celui d'un berger français. Le bilan va, c'est une certitude, s'alourdir dans les heures, dans les jours qui viennent.
Merci beaucoup Véronique Roberotte. Un grand écart entre écologie et économie. Le projet de loi controversé sur la réintroduction temporaire de néonicotinoïdes doit être étudié à l'Assemblée nationale à partir d'aujourd'hui. Le gouvernement assure n'avoir qu'un objectif, la betterave, même si la filière n'est pas mentionnée dans le texte. L'idée est de préserver cette filière qui emploie 46 000 personnes, mais les associations, l'opposition de gauche et certains marcheurs craignent que d'autres filières utilisent cet insecticide. Le débat dans l'hémicycle aujourd'hui promet donc d'être houleux. En Nouvelle-Calédonie, c'est un autre débat qui anime les élus et qui est loin d'être clos malgré un référendum organisé hier. Le non à l'indépendance y a été majoritaire mais d'une courte tête, un peu plus de 53% des voix. C'est 3,5 points de moins qu'en 2018. Conformément à l'accord de Nouméa, un troisième et un dernier référendum pourra donc être organisé d'ici 2022. Et de toute façon, selon l'anthropologue français Alban Bensa, l'indépendance de la Nouvelle-Calédonie est inéluctable politiquement. Il s'en explique.
Je ne vois pas les indépendantistes renoncer à cet espoir, mais je ne vois pas non plus beaucoup de Calédoniens qui ont fait leur vie depuis très longtemps en Nouvelle-Calédonie ne pas participer à cette souveraineté. Et plus on tarde, plus cette souveraineté risque d'être tranchée, si vous voulez, cette demande risque de se durcir. Et là, il est temps de faire encore des paliers pour cet accès à la souveraineté. Mais l'idée, c'est que si la voie est tracée, tout le monde pourra s'y retrouver. Si la voie n'est pas tracée, ça va être arraché. Et arraché, c'est jamais très bon. Ça fait des victimes, ça fait des dégâts, etc. Donc, oui, je pense que c'est tout à fait inéluctable. Et on peut réussir à trouver une solution positive à la Nouvelle-Calédonie, mais on ne l'aura pas, cette solution positive, s'il n'y a pas en perspective un changement de souveraineté.
Une indépendance qui, au contraire, pourrait faire déchanter les 270 000 habitants de l'archipel, économiquement parlant cette fois. C'est ce que répond Robert Bertram, directeur de la revue juridique, politique et économique de Nouvelle-Calédonie.
C'est pas viable du tout parce que il y aura plus les transferts gratuits de la métropole. Ça fait 175 milliards de francs CFP, ça fait 1,4 milliard d'euros. C'est pas énorme pour la métropole, mais pour la Nouvelle-Calédonie, c'est pratiquement entre 12 et 15% de son PIB, quoi. Vous prenez le transfert du secondaire à la Nouvelle-Calédonie, les salaires sont entièrement versés par la métropole. La Nouvelle-Calédonie est compétente dans le secondaire, mais elle ne paye pas un enseignant, pas un seul. Et c'est 46 milliards qu'elle gagne, qu'elle ne donne pas. Les gens ne s'en rendent pas compte parce qu'ils parlent de dignité. Alors, ils sont dans le culturel. Donc, partir avec un niveau de vie très élevé et redescendre d'un seul coup très très bas, c'est toujours viable, hein. Les gens continueront à vivre, mais avec rien. Avec beaucoup moins.
Des propos recueillis pour France Culture par Stéphane Robert. Pour aller plus loin, Guillaume, vous receviez ce matin l'anthropologue Benoît Trépied pour la question du jour. C'est à réécouter sur notre site ou en podcast.
Non, en attendant, il est 8h11 sur France Culture. C'est la suite de votre journal, Clarin Lecoq-Réal. Donald Trump passe sa troisième nuit à l'hôpital.
Oui, après avoir été diagnostiqué positif au Covid-19 en fin de semaine dernière, le président va mieux officiellement. Ses médecins l'ont dit encore hier soir. Placé en quatorzaine et malade, il a quand même tenu à sortir brièvement de l'hôpital hier pour aller saluer ses supporters. Il pourrait aujourd'hui retourner à la Maison-Blanche. Parallèlement, sachez qu'aux États-Unis, il est aussi question de la place du vice-président Mike Pence. Camille Magnard se penchait sur son cas dans la revue de presse internationale du jour, disponible sur Internet dès maintenant. Les forces séparatistes arméniennes ont bombardé ce week-end la deuxième ville d'Azerbaïdjan, tandis que l'armée azerbaïdjanaise a poursuivi de son côté ses tirs d'artillerie lourde sur la capitale du Haut-Karabakh. Stepanakert. Aucun des deux camps ne veut une trêve, balayant toujours les appels de la communauté internationale à un cessez-le-feu. Selon un dernier bilan partiel au Haut-Karabakh, les combats ont fait 247 morts et déjà des centaines d'exilés qui fuient vers l'Ouest et l'Arménie. Eux tentaient visiblement de rejoindre l'Angleterre. Ils sont morts dans un camion frigorifique à l'est de Londres. C'était il y a un an. La découverte de leurs 39 corps après asphyxie et hyperthermie. Le procès de certains responsables a lieu aujourd'hui. Un drame qui avait mis en lumière les filières vietnamiennes en Europe. Elles ne sont pas pour autant arrêtées, Élise Delève.
Après la découverte des 39 migrants morts par manque d'oxygène, les filières vietnamiennes se sont mises en sommeil, raconte Xavier Delrieux, chef de l'OCRIEST, la direction centrale de la police aux frontières.
Les trafiquants, ça les a beaucoup inquiétés parce qu'ils savaient qu'il y aurait des investigations très poussées qui seraient faites sur ces personnes décédées. Hein. Ils sont mis en sommeil, le temps de voir ce qui se passait au niveau judiciaire. Ensuite, voyant qu'il n'y avait pas de réponse immédiate suite à cette découverte, ils ont repris leur activité, ils ont diversifié les modes opératoires. On a constaté donc qu'ils n'opéraient plus de chargement de nombre important de migrants dans les camions frigorifiques, comme ils le faisaient auparavant, mais plutôt des convoyages de 3-4 migrants qui étaient cachés dans des cabines de chauffeurs polo, donc avec la complicité des chauffeurs polo, bien évidemment, pour ensuite les faire passer en Grande-Bretagne, soit par bateau, soit par le tunnel.
Un trafic d'êtres humains très lucratif pour ces passeurs sans foi ni loi. Environ 20 000 euros pour aller de la France à l'Angleterre et jusqu'à 25 000 euros pendant la crise du Covid. Ces migrants empruntent en général la même route pour quitter le Vietnam. D'Hanoï, ils vont en avion en Russie, puis traversent l'Europe, risquant leur vie à chaque passage de frontière. Difficile de savoir combien ils parviennent, mais l'OCRIEST estime qu'ils sont plusieurs dizaines par semaine à tenter de rejoindre l'Angleterre.
C'était Élise Delève pour France Culture. Il était le premier styliste japonais à s'imposer à Paris. Le créateur Kenzo Takada est mort hier à l'hôpital américain de Neuilly-sur-Seine des suites du Covid-19. Son nom, Kenzo, est l'un des plus connus dans le monde de la mode. Il avait 81 ans. Ce lundi sera encore bien pluvieux sur la majeure partie de la France métropolitaine. Le temps ne sera sec que sur le sud-est. Ce ce matin, de quoi souffler pour les rescapés de la tempête Alex. Temps plus lumineux aussi sur toute la moitié ouest cet après-midi. Ce matin, comptez 10 degrés à Strasbourg et à Lyon, 12 à Paris, 13 degrés à Rennes et Bordeaux et 14 degrés à Nice.